Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Radio Libellule.
Les ondes positives.
Les petits plaisirs de la vie. Sentir la chaleur du soleil sur sa peau. S'allonger sur un transat et regarder les étoiles. Écouter le chant des oiseaux. Prendre un petit déjeuner en terrasse avec la rosée du matin. S'émerveiller en regardant la nature et les animaux qui s'agitent. Un criquet qui saute, des abeilles qui dansent, un écureuil qui monte à un arbre. Voir les fruits mûrir sur les arbres. Sentir l'odeur du café chaud le matin. Plonger les mains dans le terreau doux et frais. Sentir l'odeur des brins de muguet et de lilas. Voir les boutons de rose éclore. Savourer les premières fraises de l'année. Lire un bon livre devant la cheminée. Croquer une belle part de tarte au citron, sans meringue évidemment. Entendre la voix de ces petites filles au téléphone. Voici nos petits plaisirs de la vie. Merci à Yves, Yvette, Jacqueline et Paulette.
Une merveilleuse introduction à cette 6e émission Radio Libellule. Vous venez d'écouter Paulette, résidente à l'EHPAD Les Hauts-Bois de Fléac en Charente, à côté d'Angoulême, et elle nous parlait des petits plaisirs de la vie. Et puis on a ressenti vraiment cette émotion dans sa voix, et ça nous fait plaisir puisqu'elle nous transmet beaucoup d'ondes positives. Et Radio Libellule, c'est ça, c'est le trait d'union entre les générations et les ondes positives. La bonne humeur. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette 6e émission de Radio Libellule. Aujourd'hui, on aura plein de choses, des nouveautés, mais aussi nos chroniques habituelles. On commencera avec les savoir-faire de Bernadette. Elle nous parlera d'une recette lessive maison très simple et très efficace. Ensuite, Lara nous a préparé un petit jeu avec des petites devinettes pour vous faire participer et pour vous faire jouer. Emma nous a préparé cette fois un texte de Victor Hugo. Vous verrez, les fleurs sont encore présentes comme dans les textes précédents. La belle époque, comme d'habitude, cette fois un petit peu différente. Ce sera une leçon d'histoire avec Dominique. Vous allez voir, c'est très très intéressant. On retrouvera Clément pour sa chronique vélo, c'est l'épisode 4. Amateur de vitesse, vous allez être content. Cette semaine, on parle du vélo de course, de l'aventure et du partage. On aura juste après une petite bande-annonce sur un magnifique documentaire sonore qui nous a été envoyé et qu'on voulait vous partager. Je ne vous en dis pas plus, vous allez le découvrir un peu plus tard. La chronique évolution d'Elisa, cette semaine, on parle de déco. Et puis le questionnaire bouillon de culture, un petit peu différent cette semaine, on ne va pas poser les questions à une seule personne, mais à plusieurs personnes. Je ne vous en dis pas plus, c'est la surprise. Un peu de poésie comme chaque semaine avec Émilie. Quand on rencontre un nuage, ça fait des bulles. Comme une libellule, on s'envole. Encore une très belle pause poétique que nous ferons dans cette émission. Et puis à la fin de l'émission, normalement, on lit une fable. On a légèrement changé cette semaine. On va lire une lettre. On a retrouvé un recueil de lettres anciennes. Et là, en l'occurrence, ce sera une lettre d'Henri IV. Et puis l'énigme. On écoutera la réponse à l'énigme d'Elisa, pourquoi la nuit tous les chats sont gris, et elle vous posera une nouvelle énigme. Et puis on se quittera sur la toute nouvelle chronique d'Emma, d'une langue à l'autre, une chronique musicale qui joue avec les mots. Vous allez voir, c'est magnifique.
Radio Libellule.
Les ondes positives.
Eh bien, il est temps de commencer en écoutant Bernadette. La dernière fois, elle nous avait appris à faire du pain maison à l'ancienne. J'espère que vous avez pu essayer et pu manger du bon pain que vous avez fait vous-même. Eh bien, cette semaine, elle va nous apprendre à faire de la lessive maison, de la lessive facile à faire, simple et efficace. On écoute tout de suite Bernadette.
Bonjour à tous. Pour fabriquer de la lessive maison, je le fais à partir de savon de Marseille. Donc, je râpe avec un économe sur un morceau de savon de Marseille. Généralement, je le prends en magasin bio aussi. Il est soit l'huile d'olive, soit l'huile de tournesol. Alors, je mets à peu près 80 à 90 grammes de savon en copeaux. Je les fais fondre dans un litre 2 à peu près d'eau. Chaude. Oui, même je réchauffe l'eau dans une casserole avec mon savon jusqu'à ce qu'il soit bien fondu. Ensuite, je le verse dans une bouteille en plastique. Généralement, on se garde des bouteilles, des flacons en plastique qu'on a de lessive précédente parce qu'il y a un bouchon doseur. Et ensuite, quand tout est froid, que le savon est bien fondu, alors on secoue aussi dans la bouteille, je rajoute 2 cuillères à soupe environ de bicarbonate de soude. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Et puis, quand on fait de la lessive de blanc, alors je ne mélange pas dans ma lessive, dans mon bidon de lessive, mais lorsque je fais une machine de blanc avec mon, dans la machine, et qu'il n'y a que du blanc, pour que le blanc soit très très blanc, je mets, alors attendez, je vais lire ça sur le paquet parce que je n'ai pas sous les yeux. Je mets du percarbonate de sodium ou de soude, percarbonate de soude qu'on trouve dans les magasins bio et maintenant même dans les supermarchés au niveau de tous les produits de ménage. J'en mets à peu près une cuillère à soupe dans la machine à laver. Enfin, moi, j'ai une machine de 7 kilos. Alors, si vous avez une machine plus petite, vous en mettez un petit peu moins. Et je mets aussi dans ma machine, parce que je ne me sers pas d'adoucissant, je mets du vinaigre blanc, la valeur d'un verre de vinaigre blanc dans la machine à laver. Comme ça, tout est propre, nickel. Et vous faites votre machine comme normalement. Vous mettez la même dose avec votre bouchon doseur qu'avec une lessive industrielle. J'ai essayé de mettre de l'huile essentielle, de lavande pour parfumer ma lessive, mais j'ai pas trouvé ça concluant. Donc, vous pouvez le faire. Mettre 10 à 15 gouttes d'huile essentielle de parfum de votre choix. En ce qui me concerne, je la laisse comme ça, normale, sans parfum. Et c'est tout. Et bonne lessive.
Merci encore Bernadette pour cette petite technique très simple et très efficace. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'essayer de faire sa lessive soi-même. Alors tout de suite, on va vous faire jouer, parce que c'est important de jouer et de répondre à des questions. Lara nous a préparé une nouvelle chronique qu'on adore. Elle va vous poser des petites devinettes avec des petits extraits, des petits bruitages, des petits fonds sonores. Vous allez voir, c'est très amusant et c'est très surprenant. On écoute tout de suite la nouvelle chronique de Lara, devinette.
Radio Libellule.
Alors cette semaine, je vous propose un petit jeu de devinettes pour aiguiser son oreille, car certains sons peuvent avoir des origines extrêmement surprenantes. Je vous propose donc de retrouver d'où proviennent ces sons. Attention, il y en a 5 et vous allez pouvoir écouter le dernier un peu plus longtemps, car il est plutôt agréable. À la suite de quoi, les réponses viendront. Et les réponses, le premier que vous avez entendu était en réalité, même s'il ressemblait à l'avion, un tambour de machine à laver en fin d'essorage. Le second, très court, un petit clic d'un pot de confiture que l'on referme. Le troisième était en réalité une petite feuille à poncer qui ponçait du bois. Le quatrième, un clavier d'ordinateur. Et le cinquième, les oiseaux. Lesquels, me direz-vous ? Ça, vous êtes certainement plus spécialiste que moi.
Effectivement, elle a eu raison de faire durer un petit peu plus le dernier extrait, puisque c'est vrai que le bruit des oiseaux, c'est très agréable. Par contre, Lara, désolé, mais j'ai pas la réponse, je ne connais pas ces oiseaux précisément. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous la partager. Et ben, moi, je me suis fait avoir aussi sur le premier bruitage. Effectivement, on dirait vraiment un avion. Et non, en fait, c'est le tambour d'une machine à laver. Alors, avec Bernadette, on a appris à faire de la lessive. Et avec Lara, on s'est fait avoir sur le bruit de la machine à laver. C'était donc normal que la pub soit liée. C'est parti, on écoute une pub pour les machines à laver Connor.
Rien ne sert de frotter. Pour laver, il faut de l'eau. Surtout lorsqu'il s'agit de linge, draps ou chemises, lainage, bleu de travail ou lingerie délicate, vous pouvez tout confier au système Connor. Lavage naturel par mouvement d'eau.
Connor, vous pouvez tout confier au lavage Connor, comme on nous le dit dans cet extrait. On va maintenant passer à un petit moment littérature. On avait eu le texte à rebours de Wismans ces deux dernières émissions. Emma, cette semaine, elle a repris un texte de Victor Hugo sur une belle musique de Vivaldi, Le Printemps, et avec à la fin un petit extrait musical Achille Zavatta. Vous allez voir, c'est vraiment, comme d'habitude, un voyage sensoriel et toujours des fleurs, des roses, des odeurs et surtout de l'amour. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous offrir tous des fleurs à distance. Voilà, on imagine, on est toujours dans l'imagination. Voilà, pour vous, bon voilà, je vous donne une fleur. Vous aussi, laquelle vous, celle-là, je vous donne une fleur. Voilà, j'en ai donné à peu près à tout le monde. Moi, je vais m'en prendre une aussi. Voilà, je vais prendre celle-ci, elle est belle et puis en plus, elle sent bon. Voilà, dans notre imaginaire, on a tous maintenant dans nos mains une belle rose qui signifie le partage, le monde commun et l'amour. On a tout ce qu'il faut pour écouter la chronique littérature sensorielle d'Emma. Vous allez voir, c'est encore un très beau voyage.
Libellule, la radio qui bulle.
Tout conjugue le verbe aimer. Voici les roses. Je ne suis pas en train de parler d'autre chose. 1er mai, l'amour gai, triste, brûlant, jaloux, fait soupirer les bois, les nids, les fleurs, les loups. L'arbre rougé, l'autre automne, écrit une devise, la redit pour son compte et croit qu'il improvise. Les vieux entrent pensifs, dont rit le gai moqueur, clignent leurs gros sourcils et font la bouche en cœur. L'atmosphère, embaumée et tendre, semble pleine des déclarations qu'au printemps fait la plaine et que l'herbe amoureuse adresse au ciel charmant. À chaque pas du jour, dans le bleu firmament, la campagne éperdue et toujours plus éprise, prodige des senteurs et, dans la tiède brise, envoie au renouveau ses baisers odorants. Tous les bouquets, azur, carmin, poupre, safran, dont la laine s'envole en murmurant « Je t'aime ». Sur le ravin, l'étang, le pré, le sillon même, font des taches partout de toutes les couleurs et, donnant les parfums, elle a gardé les fleurs. Comme si ses soupirs et ses tendres missives, au mois de mai, qui rit dans les branches lascives, tous les billets doux de son amour bavard avaient laissé leurs traces aux pages du buvard. Les oiseaux dans les bois, molles voix étouffées, chantent des triolets et des rondeaux aux fées. Tout semble confier à l'ombre un doux secret. Tout aime et tout l'avoue à voix basse. On dirait qu'au nord, au sud brûlant, au couchant à l'aurore, la haie en fleurs, le lierre et la source sonore, les monts, les champs, les lacs et les chênes mouvants répètent un quatrain fait par les quatre vents.
Aussitôt que le printemps apparaît sous les cieux, dans les cerveaux il germe une folie. Par un charme puissant, doux et mystérieux, ces messieurs, jeunes ou vieux, trouvent toutes les femmes jolies. Et sur les avenues et sur les boulevards, on entend ces mots répétés de toutes parts. Le printemps chante dans les buissons, saison charmante des floraisons, arborons la fleur élégante sur les habits, sur les vestons.
Le printemps chante. Et oui, c'était normal de faire un texte sur le 1er mai, puisque le 1er mai, c'est dans seulement quelques jours. Moi, j'ai retenu la première phrase de cette chronique que je trouve magnifique. Tout se conjugue avec le verbe aimer. Et ça, c'est magnifique. On te remercie encore, Emma, pour cette belle chronique. Encore une fois, avec l'odeur, tu nous as fait voyager. Et on a beaucoup parlé d'amour, et nous, l'amour, on l'adore puisqu'on vous aime tous et toutes. Et puis, c'est magnifique parce qu'on a encore cette impression de vraiment sentir les fleurs. En plus, on vous a donné juste avant une petite fleur imaginaire. J'espère que vous l'avez bien senti. J'espère que chaque fleur que vous avez avait une bonne odeur. En tout cas, la mienne, elle sentait très bon. Elle sentait l'amour, elle sentait le bonheur. Alors maintenant qu'on a passé un bon moment en écoutant cette lecture, eh bien, on va pouvoir danser, on va pouvoir écouter de la musique. Alors aujourd'hui, on va s'écouter Aznavour, Hier encore, un titre de 1964. Si on a choisi de diffuser cette musique aujourd'hui précisément, mercredi 29 avril, c'est pas pour rien. Je suis tout impatient de vous expliquer pourquoi, mais encore un petit peu de mystère. Je vous laisse écouter cette belle musique et je vous explique après pourquoi ce choix. Hier encore, Charles Aznavour, 1964.
Radio Libellule.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laisse au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.
Eh oui. Si on fait un bond de 20 ans précisément en arrière, le 29 avril 2000, le petit Valentin qui vous parle actuellement, entrer dans ce monde. Et oui, voilà, il faut que je vous le dise, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je fête mes 20 ans. On est le 29 avril 2020, jour précis de mes 20 ans. Et je vous le dis franchement, je ne pouvais pas espérer meilleur cadeau que d'être avec vous tous et d'être avec vous toutes. C'est pour moi le plus beau cadeau pour mon anniversaire, d'autant plus que les 20 ans, on me dit très souvent que c'est un anniversaire qu'on n'oublie pas et qui est important. Comptez sur moi pour ne jamais l'oublier. Je me rappellerai de ce jour, toute ma vie sera gravée dans ma mémoire puisque j'aurai passé le jour de mes 20 ans avec tout le monde et on est tous ensemble pour mon anniversaire et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Merci tout le monde. Et donc, c'est un jour particulier, vous l'avez compris. Alors, Emma, Elisa et Émilie m'ont préparé une petite chronique. Alors, je ne l'ai pas écoutée avant, donc ça va être une surprise pour moi aussi, en même temps que vous. On m'a dit, voilà, on t'a préparé une chronique, et donc je vais la lancer et puis on va voir ça ensemble.
Ok, c'est parti. 3, 2, 1... Radio Libellule.
Les ondes positives.
Un très joyeux anniversaire à notre chroniqueur et animateur de choc, Valentin.
Salut Valentin, je te souhaite un joyeux anniversaire et profite bien de ta journée.
Salut Valentin, c'est Emma, je te souhaite un très joyeux anniversaire.
Oh, elles sont trop trop fortes. Merci beaucoup les filles, ça fait vraiment plaisir, ça me remplit de joie, c'est magnifique. Voilà, vous l'entendez en même temps que moi, j'ai une équipe en or. J'ai beaucoup de chance de travailler avec vous les filles, c'est vraiment très 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 gentil et ça me remplit encore plus de joie. Comme je l'ai dit, je suis content de présenter cette émission pour mes 20 ans et là d'autant plus avec ce beau message, c'est vraiment super gentil. Merci encore, je vous remercierai en privé plus tard, mais je vous remercie déjà sur cette émission. Merci et encore merci. C'est que du bonheur, c'est magnifique. Merci encore les filles. On va maintenant pouvoir retrouver Dominique et Bernard pour La Belle Époque. Et aujourd'hui, un peu particulier, ça change un petit peu d'habitude. Rappelez-vous, la semaine dernière, Dominique et Bernard nous ont posé une petite question. Quand les congés payés sont-ils nés en France ? Eh bien, aujourd'hui, petite leçon d'histoire avec Dominique. Vous allez voir, c'est très intéressant.
Libellule, la radio qui bulle. La Belle Époque par Bernard et Dominique.
Chronique certificat d'études. Une leçon d'histoire avec Dominique. Le thème du jour, la naissance des congés payés en France.
Les congés payés, une grande et belle idée qui pointe son nez au 19e siècle. En France, tout commence avec Napoléon III en 1853. Napoléon III instaure les premiers congés payés de 15 jours. Mais à cette époque, seuls les fonctionnaires de l'État en étaient bénéficiaires. Dès le début du XXe siècle, plusieurs pays européens instaurent à leur tour les congés payés, dont l'Allemagne en 1905. En France, il faudra attendre 1936 pour que le Front populaire ouvre la voie aux congés payés pour tous. Dès la victoire du Front populaire aux législatives du 3 mai 1936, un formidable mouvement de grève éclate. Les revendications portent sur les salaires, les 40 heures par semaine avec maintien du salaire et les congés payés. La vague de grève s'étend comme une traînée de poudre. C'est la vague d'espoir du monde ouvrier rassemblant 2 millions de grévistes. À l'époque, les médias font leur une sur cette série de grève de la joie, menée en musique et dans la convivialité. La presse écrit « Cette grève, en elle-même, est une joie. Une joie pure. Une démarche de lutte originale qui restera dans l'histoire comme le temps des grèves joyeuses. Place au bal, au théâtre, au sport, au jeu, à l'écriture. C'est le temps de la culture. L'usine se transforme en espace de création et de partage. Le 11 juin 1936, après 5 semaines de grève générale, l'Assemblée vote les congés payés et les 40 heures sans perte de salaire ce qui met fin à la grève. Immense victoire ! À l'époque, être payé à ne rien faire, partir en congé, c'était inimaginable. L'été 36, 600 000 Français partent en vacances pour la première fois. Historique ! L'été 36 a marqué un tournant dans la société française, avec la mise en œuvre des congés payés, renforcés par le billet populaire de congés annuels ouvrant droit à une réduction sur le prix du train. Les grandes vacances venaient d'être créées.
C'est bon de partir n'importe où, bras dessus, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long.
Et maintenant,
partons bras dessus, bras dessous, avec Valentin, pour fêter ensemble sa 20e année.
Oh, génial, je vous remercie Bernard et Dominique, c'est très gentil comme message, ça me touche vraiment, c'est super, bon, c'est vraiment que des émotions cette émission, ouais, c'est une émission un petit peu spéciale et ça fait vraiment plaisir d'entendre ces beaux messages. Je vous remercie vraiment mille fois Bernard et Dominique, en plus vos chroniques, on les adore, et moi vraiment j'adore les écouter chaque semaine, et là vraiment Dominique chapeau, parce que c'était vraiment une très très belle leçon d'histoire, on a appris plein de choses et comme d'habitude on était content de vous entendre pour cette nouvelle émission. Ben, je suis très pressé maintenant de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous remercie encore pour votre petit message. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Alors, vous avez entendu, ils ont dit partons bras dessus, bras dessous. Et ben, ça tombe très bien. Je vous remercie aussi pour cette belle transition. Puisqu'effectivement, on va partir, on va s'évader. On part à l'aventure et on va partir pour du partage. Comment ? Vous allez me dire comment on va faire ? Eh bien, tout simplement en montant sur notre vélo cette semaine sur le vélo de course. C'est parti pour de la vitesse, de l'aventure et du partage avec l'épisode 4 d'Abicyclette par Clément.
À bicyclette avec Clément.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. À bicyclette.
Aujourd'hui, nous partons à la découverte du vélo de course. Celui-ci apparaît au début du XXe siècle grâce au Tour de France de 1903.
Le peloton face à des millions de spectateurs. Une immense clameur pour saluer les 4000 coureurs qui ont disputé le Tour de France au cours du dernier siècle.
On le distingue facilement des autres, ce vélo, grâce à ses grandes roues, ses pneus fins, ses pneus lisses, ce cintre sport permettant une certaine aérodynamique. De plus, un cadre qui évolue avec le temps, permettant d'avoir un vélo plus rigide et permettre une retransmission de l'énergie plus facile à chaque tour de pédale. Il est construit pour avaler les kilomètres à vive allure. On dit de lui que c'est la Formule 1 des vélos.
Merci Clément. Le vélo de course conçu pour avaler des kilomètres, est-il comme le gravel, un vélo qui rassemble ?
Le vélo de course, il rassemble, en tant que spectateur déjà, par l'événementiel. Le Tour de France est un bon exemple. Qui n'a pas assisté à ce fameux Tour de France à la télé, ou même dans la rue, en direct ? Je m'en souviens encore. C'est un engouement généralisé. Nous sommes réunis pour un seul événement. Et à plus petite échelle, la pratique en club, pratiquer et fêter les victoires ensemble. Discuter tout en roulant. Sourire, rigoler. C'est aussi la délivrance de franchir un col de montagne à la force des mollets. Imaginez un peu cette scène. Profiter du paysage après un effort mérité. Mériter, c'est une seconde de bonheur après 2 heures d'effort.
Une seconde de bonheur après des heures d'effort. Mais quelle seconde ! Un espace de contemplation pure, ces cols de montagne. Merci Clément, on a voyagé à tes côtés. Peux-tu nous raconter l'histoire de ce vélo de course devenu mythique avec le Tour de France ?
Aujourd'hui, le vélo de course a bien évolué. Fini le cadre en acier de 1903. C'est l'arrivée du carbone, de l'aluminium. Les freins ne sont plus à patins mais à disque. Les roues pèsent moins d'un kilo. C'est la course à l'innovation. Le vélo est plus léger qu'un pack d'eau. Moins de 6 kilos parfois. L'objectif, c'est d'aller plus vite, d'être plus réactif, de faire comme nos idoles, de performer, de sortir du lot, de sortir du peloton, de franchir la ligne d'arrivée en premier. Mais surtout, l'objectif, c'est de s'évader.
Dans le sillage de la bicyclette de Clément, je vous propose comme thème de cette semaine le voyage. Et pour ce thème, pas besoin de se déplacer. L'imaginaire suffit. Alors, enfourchons nos bicyclettes bleues.
Le long d'une Garonne au cours lassif et indolent, la Gironde étale ses paysages vallonnés de coteaux et de vignes. Ici, le soleil embrase la nature, inonde les champs et caresse les chais de ses lignes palpitantes. Lorsque l'écrivaine Régine de Forges découvre ce territoire au sud-est de Bordeaux, ses formes généreuses, ses vignobles à perte de vue et ses chemins rocailleux, c'est le coup de foudre. De cette passion naissent en 1981 la bicyclette bleue et son orageuse héroïne, Léa Delmas. La bicyclette bleue est un triomphe. Des millions de lecteurs se laissent entraîner par les amours et les aventures de Léa, plongée dans le tourbillon de la Deuxième Guerre mondiale.
Et encore une chronique très intéressante sur le vélo. Merci encore Clément. Alors la semaine dernière, on avait découvert le gravel, donc je pense qu'on était beaucoup à pas le connaître, donc on l'a complètement découvert. Là, en revanche, le vélo de course, disons qu'il est plus connu et plus commun. On a tous déjà vu un vélo ou essayé un vélo de course. Mais en revanche, tu nous as vraiment montré à quel point ce n'était pas seulement un vélo et pas seulement quelque chose de matériel, on va dire. C'est aussi un vélo qui rassemble, un vélo qui permet l'échange, qui permet l'aventure et qui permet vraiment plein de belles choses. Alors merci Clément pour ce bel éclairage. Et comme l'a dit Émilie, on va dans l'imaginaire voyager en montant sur ce vélo. Vous avez vu, nous l'imaginaire c'est important pour nous. Hein. On a imaginé la rose dans nos mains. Avec cette rose, on est monté sur le vélo et on est parti à l'aventure avec ce vélo qui rassemble. Il y a une autre façon de voyager, c'est avec les souvenirs et avec les récits. Je vous fais écouter un petit extrait sonore et je vous explique juste après.
Le courage des femmes, écho de vie en temps de guerre. Avec Thérèse Claire, Liliane Cassio, Rolande Trempé, Jacqueline Fichard, Vivette de Comble, Madeleine Aubrin, Mélie Renette.
J'étais dans une école catholique, dont j'ai gardé un peu le goût de la chose sacrée, ou tout au moins... Je donne à l'acte journalier quotidien un acte vraiment sans grande importance, mais je lui donne assez souvent le sens du sacré.
Cette femme convoque des temps lointains et des combats. Elles émergent des bribes de souvenirs et de leurs récits surgissent des anecdotes douloureuses ou cocasses vécues pendant la Seconde Guerre mondiale ou plus tard. Leurs voix croisées soufflent l'air du temps. Parle d'une présence, d'une absence, de courage. Cette polyphonie est un hommage au courage des femmes. C'est réalisé par Yasmina Belferoum. Elle a eu la gentillesse de nous l'envoyer. Alors on a longuement échangé autour de son documentaire. On l'a d'abord, nous, écouté. Et je vais vous le dire très franchement, avec des mots très naturels, vraiment ce qu'on en a pensé, c'est magnifique. Ce projet, c'est vraiment presque féerique, puisque en écoutant ce documentaire sonore, il y a vraiment une vraie immersion. On apprend des choses, on se plonge dans un univers. On vous remercie, sur l'émission, on vous remercie de nous avoir partagé ce très beau projet qui nous a vraiment tous, beaucoup plu. C'est vraiment un projet magnifique. Alors, on a mis un petit extrait pour vous donner un petit avant-goût. Le documentaire dure un peu plus de 40 minutes. C'est un documentaire sonore et pour vous le partager, parce que vraiment on l'a tellement adoré qu'on voulait que vous puissiez l'écouter. Il sera disponible sur notre site internet radiolibellule.ressentezvous.fr. Il vous suffit de cliquer sur la rubrique documentaire sonore pour l'écouter, et vraiment on vous invite vivement à aller l'écouter et à nous faire des retours qu'on pourra partager à la réalisatrice Yasmina Belferoum. Encore merci à vous pour nous avoir partagé ce magnifique projet. Je rajoute également que sur notre site internet vous avez une petite rubrique lecture sonore, donc l'association Je te lis nous a gentiment envoyé des petites lectures de textes enregistrées, donc des petites lectures audio. Il y en a à peu près une quinzaine disponibles sur le site. Donc si vous voulez écouter des belles petites histoires très bien racontées, il vous suffit de cliquer sur la chronique Histoire Audio pour retrouver les lectures de l'association Je te lis. Alors maintenant qu'on a bien voyagé, on va retourner un peu chez nous. On va se concentrer un peu sur ce qui nous entoure. Regardez autour de vous, comment avez-vous décoré l'endroit où vous êtes? Quel est le design de l'endroit où vous êtes? Par exemple, moi, disons que c'est un design un peu jeune, puisque c'est ma chambre d'ado, avec beaucoup de décorations autour des États-Unis, autour de New York. J'ai sur ma tapisserie des petites impressions de journaux, le Times, le Télégraphe, des journaux américains, mon lit, mon bureau, le petit studio Radio Libellule, un petit canapé, toujours aux couleurs des États-Unis, puisque j'étais passionné quand j'étais jeune. À vous de regarder rapidement autour de vous. Et pour en savoir plus, on écoute tout de suite la chronique Évolution d'Elisa, qui s'est intéressée à l'évolution de la déco.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce formidable mercredi. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution de la décoration d'intérieur de 1940 à nos jours. Mais pour commencer, je dois vous avouer que comparé aux chroniques précédentes, celle-ci m'a quelque peu donné du fil à retordre. En effet, comparé à la mode ou à la musique, le design n'a pas connu des périodes déterminées et successives, mais des vagues de mode. J'ai essayé de clarifier au mieux son évolution et j'espère ne pas vous perdre. Ainsi, on commence avec les années 40. L'un des mouvements principaux était le style 1940, qui représente une branche tardive de l'art déco et qui occupera une place majeure dans le monde du design jusqu'au milieu des années 50. Ce style se caractérise par une remise à la mode des tentures et des draps accrochés aussi bien aux fenêtres qu'aux murs. Le fer forgé est aussi très apprécié, tout comme les moulures murales. Le courant 1940 mélange à la fois le style Napoléon III avec ses bois sombres et le style baroque avec ses dorures. Le design des années 40 vit aussi apparaître des tendances inspirées par l'Afrique, notamment suite aux fouilles archéologiques en Égypte, et qui popularisèrent les bois tropicaux et les peaux de bêtes sauvages. Finalement, les années 40, c'est la mode des trompe-l'œil et des motifs végétaux. 1950. La décoration des années 50 a fortement été influencée par les Trente Glorieuses et le désir de profiter de la vie en oubliant la guerre. L'un des courants prédominants est le style international qui était d'abord destiné aux classes sociales supérieures et qui s'est ensuite légèrement ouvert au reste de la population. Ce style se caractérise par une pureté des formes, des surfaces lisses et les matériaux favorisés sont le béton, l'acier et le verre. Ce style résulte de nombreuses influences dont la plus connue est l'école du Bauhaus qui a été créée en Allemagne et qui a fortement influencé de nombreux domaines tels que la danse ou la peinture. Cette école se caractérise par des formes totalement épurées. Une autre des grandes figures des années 50 est le Corbusier. Certaines des inventions phares sont le meuble moulé qui a été imaginé par Charles Eames ou encore l'apparition de l'électroménager dans les maisons. Nous pouvons aussi noter une forte influence scandinave avec notamment l'architecte Arne Jacobsen. Cette influence se traduit par une tendance au naturalisme, aux couleurs et au désir de rendre la décoration fonctionnelle. Les États-Unis sont aussi une influence notoire à travers l'American Dream et l'envie d'un intérieur cosy et chaleureux. Dans les années 50, on aime pimenter notre déco avec des tableaux abstraits et du cuir, et les couleurs privilégiées sont le vert, le marron et le beige. 1960. Au niveau décoration, les années 60 marquent une rupture avec les valeurs du passé. Avec l'avancée des technologies pétrolières, le plastique est tendance et les formes se font extravagantes. Des ronds, des zigzags, des formes indéfinies et le tout très coloré. On aime le rouge et le orange et l'ameublement est multi-usage, à la fois meuble et décoration. Les inspirations viennent tout droit de la science-fiction et du psychédélique. L'un des créateurs majeurs est Eero Aarnio, qui a dessiné la ball chair, cette espèce de fauteuil en forme de boule reposant sur un pied central. Un autre mouvement, tout droit venu du Japon, marque cette décennie, le minimalisme. Le blanc est prépondérant et on se libère de tout artifice et ornement. Je pense que la meilleure manière de définir ce courant est de citer l'un des créateurs phares, Miles van der Rohe, qui a dit « Less is more », pouvant être traduit par « Moins est déjà plus ». 1970. Les années 70 ont été marquées par de nombreuses crises sociales et politiques, que ce soit en France ou à l'étranger, et cela a influencé le milieu de la décoration d'intérieur. Ainsi, le design des années 70 se traduit par un anticonformisme. On abandonne les matériaux chers et on redessine les formes. Cependant, les années 70 représentent une certaine continuité des années 60. Les couleurs sont toujours présentes, bien que plus flashy, et le plastique est toujours autant utilisé, bien que le métal ou le bois reviennent à la mode. Enfin, la décoration se fait plus brillante, translucide. 1980. Les années 80 ont principalement connu le courant freestyle. Ce style se caractérise par un mélange de tous les styles précédemment abordés. C'est un grand n'importe quoi artistique. On retrouve des tables baroques à côté de chaises minimalistes, au gré des envies des individus. Ce style a été largement adopté par les classes sociales basses et les anticonformistes de par la facilité d'adopter ce style. Finalement, dans les années 80, on aime les surfaces mouchetées, le motif échiquier, le bois laqué ainsi que les éclats de miroirs et d'objets. 1990. Dans les années 90, le design est partout. Toutes les marques, de tout domaine confondu, dessinent des objets à l'image de la carafe de Ricard. La mode est à l'ameublement fonctionnel et esthétique à la fois, et les couleurs sont de nouveau tendance. Le créateur phare est Stark, qui a designé toutes sortes d'objets tels que des véhicules, des aliments ou la flamme olympique pour les JO de 1992. 2000. Le design des années 2000 se caractérise par un mélange des styles antérieurs et qu'on a appelé style vintage. Trois courants sortent du lot. Le minimalisme fonctionnel qui signe le grand retour du design scandinave, le futurisme exubérant avec ses couleurs et ses formes surprenantes, et enfin l'éco-design avec ses objets de récupération et ses matériaux éco-responsables. 2010. Les années 2010 furent en grande partie une continuité des années 2000, bien que nous pouvons noter une place bien plus importante accordée à l'éco-design. Les années 2010, c'est aussi le style industriel caractérisé par du béton sombre et brut, de l'acier et une décoration sobre. La technologie se transforme en décoration et les maisons sont connectées. Nous pouvons donc nous rendre compte que la décoration d'intérieur a fortement évolué depuis les années 40, bien que les styles n'aient jamais réellement disparu, à l'image de l'influence scandinave ou du style rustique inspiré de nos campagnes. Nous pouvons donc plutôt parler d'une évolution constante. De plus, le design a fortement été influencé par les progrès industriels, techniques et technologiques qui ont déterminé les matières et les techniques de conception. Finalement, même si aujourd'hui nous sommes bien loin de la vie imaginée dans le film Retour vers le futur réalisé par Robert Zemeckis, qui montre des skates volants et des maisons ultra high-tech, la décoration est de plus en plus influencée par la technologie, avec des appareils toujours plus stylisés, à l'image de l'assistant virtuel de Google. Pour finir, je voudrais remercier Katia, qui est architecte d'intérieur et qui m'a fortement aidée dans mes recherches. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un bon moment avec Radio Libellule ainsi qu'une bonne journée.
Et on te remercie Elisa pour cette belle chronique évolution, on a encore appris plein de choses et vous l'avez vu à la fin, elle remercie Katia, architecte d'intérieur qui l'a aidée, donc nous aussi on remercie Katia, merci beaucoup, mais surtout ça montre que Elisa vraiment quand elle prépare ses chroniques, c'est vraiment un gros travail de recherche et quand on écoute en 5 minutes cette évolution, on apprend plein de choses, donc on te remercie encore une fois Elisa. Moi il y a une déco que j'aime bien, c'est l'éco-design, c'est un peu la récup, effectivement des fois on peut faire des petits canapés, des petits lits en récupérant des palettes de bois et c'est vraiment très charmant, en plus c'est du fait maison, on peut le faire soi-même, donc voilà Bernadette, petit message, peut-être que vous aussi vous êtes adepte de cet éco-design puisque je sais que vous aimez la récup et les constructions éco, donc on pourra peut-être en discuter, peut-être qu'on va se rendre compte que Bernadette a tout construit elle-même avec de l'éco-design, ça ne m'étonnerait pas du tout. Il est temps à présent de faire une petite pause avec de la musique, vous le savez, en milieu d'émission la musique c'est toujours une découverte, quelque chose que vous ne connaissez sûrement pas et qu'on veut vous faire découvrir. Alors pour le coup, c'est vraiment quelque chose dans un style très différent. C'est donc ODZN, un groupe bordelais. La musique, c'est hardcore, ça date de 2020 et vous allez voir avec eux, on parle encore de fleurs. On a beaucoup parlé de fleurs cette semaine, normal, le 1er mai c'est bientôt. Dans cette musique, on parle encore de fleurs et surtout avec le rythme et la musique de fond et les belles paroles, eh bien on lâche prise et on s'envole en écoutant ODZN.
Radio Libellule.
Les ondes positives.
Hardcore. que je comprends pas. Pourquoi les roses ne parlent pas? Dans ton jardin secret pourtant, j'ai vu des fleurs causer au vent. Il y a des choses qui ne se disent pas, m'a dit le temps dans sa prison. Quelqu'un de bon, ça ne se voit pas. Y'a rien d'honnête, y'a que des raisons. J'aimerais donner de l'amour à tous les vauriens de ma tour. Vivre sa vie, c'est un présent. Tu peux toujours montrer les dents. J'ai pas trouvé dans le paysage de quoi éclairer ton visage. Bon Dieu, ça prête du bruit, le silence. Mon Dieu, ça prend de la place, l'absence.
On vient d'écouter Odezen, c'était un titre de 2020, ça s'appelle Hardcore. Et comme d'habitude, on a voyagé. Bah, vous avez remarqué que tout au long de cette émission, on a vraiment la notion de voyage. On a senti des belles fleurs, on s'est tous offert de jolies fleurs qui ont de très bonnes odeurs. On a appris avec l'histoire, on a voyagé avec Dominique, et on a pris notre vélo pour faire de la vitesse, pour faire de l'aventure avec ce beau vélo de course, vélo qui rassemble. Et puis ensuite, on a écouté de beaux récits et de beaux souvenirs avec le reportage de Yasmina Belferoum. Et puis, on a plané avec cette belle musique. On s'est envolé, on s'est un peu évadé. C'est vraiment une musique qui nous pose et qui nous fait beaucoup de bien. C'est encore du bonheur, de la joie et que des choses positives. À présent, il est temps de se concentrer un petit peu puisqu'on va répondre au questionnaire Bouillon de Culture. Je vous l'ai dit dans le sommaire, cette fois, c'est un peu différent. On n'a pas interrogé une seule personne, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes vont répondre à ce questionnaire. Je dis ça parce qu'en fait, c'est vous. Alors concentrez-vous, je vais vous poser les questions à toutes et à tous. C'est, voilà, on voulait partager avec vous ce questionnaire. Vous avez déjà dû un petit peu y réfléchir au fil des émissions. Voilà, quel est votre mot préféré, etc. Eh bien là, pour la première fois, on va vraiment vous poser les questions. C'est parti, préparez-vous. On commence avec la première question. Alors, quel est votre mot préféré ? Quel est le mot que vous détestez ? Alors maintenant, donnez-moi un bruit que vous aimez entendre. Quel est le bruit que vous détestez entendre ? là vous pouvez vous lâcher un petit peu. Quel est votre gros mot favori? Et enfin, si vous deviez choisir la nouvelle illustration pour un tout nouveau billet de banque, qui choisiriez-vous pour l'illustrer? Voilà, c'était votre questionnaire Bouillon de Culture. C'était le tien, le vôtre, le nôtre. On s'est tous posé les questions et vous avez tous répondu. N'hésitez pas à nous partager vos réponses. Peut-être que plus tard, nous, on se le posera entre nous, à nous-mêmes, pour voir. Ça peut être marrant de voir les réponses que chacun donne. À présent, on va pouvoir se... Alors là, on s'est concentré un peu, on s'est peut-être redressé un peu, on a réfléchi. Maintenant, on va faire l'inverse. On va se mettre bien au fond de son siège, on va bien s'installer et on va s'évader encore du voyage. Et pas n'importe lequel, puisque c'est un voyage poétique proposé par Émilie. Comme chaque semaine, vous adorez ces belles envolées poétiques. Cette semaine, c'est la rencontre avec un nuage. Quand on rencontre un nuage, ça fait des bulles. Comme une libellule, on s'envole. Êtes-vous prêt à vous envoler? C'est parti, la chronique poétique avec Émilie.
Libellule, la radio qui bulle. Poésie en arabesque ouvre relation.
Petit nuage habite espace. Espace habite petit nuage. Sous plume du monde, petit nuage cherche résidence. Résidence cherche petit nuage. Résidence cherche petit nuage danse, 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 petit nuage danse, danse. Parfois, petit nuage danse sur l'être. Avec ses gouttes, avec ces flocons, mais aussi parfois avec sa grêle. Avec sa grêle, petit nuage danse, danse, danse sur l'être. Parfois, il neige sur parois vides, neige sur petit nuage, fort, tendrement, tendrement, petit nuage, neige, neige, ensemence, ensemence jusqu'à plus de souffle, en étreinte, plus de souffle, petit nuage, tiens. Tiens, caresse sur paroi cotonneuse, petit nuage, tiens, caresse sur paroi cotonneuse, ouvre carte vierge, dans l'inconnu, cherche, cherche, petit nuage se demande, peut-on naviguer dans l'inconnu? Petit nuage se demande, doit-on naviguer dans l'inconnu? Doit-on naviguer dans l'inconnu? Plus de souffle, petit nuage, tiens, caresse, paroi cotonneuse, plus de souffle, paroi cotonneuse s'enfonce dans matière sableuse. Paroi cotonneuse, plus de souffle, nuage, rencontre, être, être, rencontre, nuage, ensemence, appartenir, comprendre, sueur, sentir, caresse, petit nuage, être, être. Petit nuage.
Encore plein de douceur avec cette belle chronique poétique, avec l'histoire de ce petit nuage. Merci encore Émilie. Chaque chronique poétique qu'on écoute chaque semaine nous permet vraiment de nous envoler, de nous évader, d'autant plus avec ce beau petit nuage qu'on a tous imaginé. Et merci encore Émilie, puisque c'est vraiment toujours un plaisir d'écouter cette chronique. Ça nous permet vraiment de ne penser à rien, vraiment de se laisser aller au gré de la belle voix d'Émilie qui rythme cette belle chronique et qui nous emmène chaque semaine dans un univers, dans une attitude, dans des ressentis différents, et c'est vraiment toujours, toujours magnifique. Alors là, comme d'habitude, c'est un petit peu l'heure du goûter. Après cette belle chronique et ce beau voyage poétique, ben il faut reprendre un petit peu de l'énergie pour terminer cette émission toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Alors la semaine dernière, je vous ai proposé des crémas. Dans mon sac cette semaine, j'ai encore des petites gourmandises. C'est parti, on fait les gourmands. Qu'est-ce que je peux vous proposer ? Voilà, j'ai Miko. Si vous voulez vraiment vous régaler, demandez Miko sans hésiter.
Et si vous voulez vraiment vous régaler, alors demandez Miko sans hésiter.
Si vous voulez vraiment vous régaler, demandez Miko sans hésiter. Eh bien, on n'hésite pas. C'est parti, on mange tous du Miko. Comme d'habitude, dans l'imaginaire, je veux vous voir ouvrir le petit paquet de Miko, prendre un petit bout et le mettre dans votre bouche. Et c'est parti, on mange tous un bon Miko tous ensemble. Alors, faut pas que je parle de la bouche pleine, du coup. Parce que maintenant, vous l'avez entendu dans le sommaire, on ne va pas lire une fable, mais une lettre. Alors j'ai retrouvé un recueil. Ce recueil s'appelle « Les 100 plus belles lettres de la langue française ». Et dedans, on a vraiment plein de belles lettres écrites par plein de personnages différents. Verlaine, Zola, Camille Claudel, Rimbaud. On a vraiment plein de belles lettres qui sont vraiment très très bien écrites et très intéressantes. Alors cette semaine, pour commencer, j'ai choisi de vous lire la lettre d'Henri IV. Henri IV, vous le savez, il était surnommé le ver galant puisqu'il était connu pour avoir de multiples passions amoureuses. Et donc cette lettre, elle date de la fin du XVIe siècle et vous allez voir, elle est plutôt osée. Mes belles amours, ce sera demain que je baiserai ces belles mains par millions de fois. Je ressens déjà du soulagement en mes peines par l'approche d'un tel que je tiens cher comme ma vie, mais si vous me le retardez d'un jour seulement, je mourrai. Envoyez-moi aujourd'hui la Varenne, instruit de vos commandements. J'ai recouvert un cœur de diamants qui vous fera mourir d'envie. Si les anges portaient des bagues, ils vous seraient extrêmement propres. Jamais absence ne m'a tant ennuyé que cette-ci. Passer le mois d'avril absent de sa maîtresse, c'est ne vivre pas. Vous recevrez deux lettres aujourd'hui de moi, et moi deux baisers demain de vous. Bonjour, ma chère maîtresse, je baise un million de fois vos pieds. C'était une lettre d'Henri IV destinée à Gabrielle d'Estrées. Voilà, je vous l'avais dit, hein, c'est un petit peu osé, mais c'est une lettre authentique écrite par Henri IV et ça me permet de vous proposer un petit défi. Alors, j'espère que vous avez réussi à écrire une fable. On serait d'ailleurs content de pouvoir les lire ou de les entendre. J'espère aussi que vous avez pu y ajouter une belle petite illustration. Et bien, comme on a lu une lettre cette semaine, ce qu'on vous propose, c'est d'écrire vous-même une lettre. Alors laissez faire l'imagination, laissez votre crayon se balader naturellement sur le papier et écrivez une lettre. Vous écrivez ce que vous voulez, à qui vous voulez. Exprimez-vous, écrivez et n'hésitez pas à nous les partager car ça nous intéresse comme d'habitude. Alors avant de terminer cette émission, c'est le moment de l'énigme. Alors rappelez-vous, la semaine dernière, Elisa nous avait demandé la nuit, pourquoi on dit que tous les chats sont gris ? J'espère que vous avez pu y réfléchir un petit peu, certains peut-être le savaient déjà. Eh bien Elisa nous propose une petite explication très précise pour tout comprendre.
Pourquoi dit-on que la nuit, tous les chats sont gris ?
Bon, alors maintenant, il va falloir m'expliquer.
Eh bien, derrière ce proverbe français signifiant que dans l'obscurité, les différences s'effacent, il y a une explication scientifique, la composition de notre rétine.
Et alors ?
Au fond de nos rétines, deux éléments sont responsables de notre vision. D'un côté, les bâtonnets, qui s'activent à faible luminosité et qui permettent une vision en noir et blanc, et de l'autre, les cônes. Les cônes se divisent en trois groupes. Les baies qui distinguent le bleu, les V qui distinguent le vert et les R qui distinguent le rouge.
C'est cela, oui.
L'addition de ces trois groupes de cônes nous permettent donc de voir les couleurs. En revanche, ils ne s'activent qu'en présence d'une forte luminosité, semblable à celle du jour. Ainsi, la nuit, seuls les bâtonnets s'activent. Nous ne pouvons voir les couleurs et c'est pourquoi la nuit, tous les chats sont gris. Mais ça aurait été la même chose pour n'importe quel animal.
Ouais, c'est pas faux.
Merci beaucoup Elisa pour cette belle explication. Donc voilà, maintenant la prochaine personne qui vous dira cette expression « la nuit tous les chats sont gris », vous allez pouvoir lui répondre et lui expliquer pourquoi. Voilà, en quelques secondes, on a très rapidement compris. Merci Elisa pour cette belle explication. Et puis bah, Elisa, elle a encore une nouvelle question à vous poser et à nous poser, puisque moi-même je découvre en même temps que vous et j'essaye toute la semaine d'y réfléchir. J'écoute pas les réponses avant, j'essaye vraiment de trouver une explication, mais c'est pas très simple, hein. C'est pour ça que les explications qu'elle nous donne sont vraiment très bien, puisque après on apprend plein de choses et c'est très très important d'apprendre tous ensemble. Voici la nouvelle énigme proposée par Elisa.
Pourquoi trinque-t-on ?
Bon, alors maintenant, il va falloir m'expliquer.
Et oui. Pourquoi on trinque ? C'est vrai que c'est une habitude qu'on a tous, hein, on trinque. Voilà, quand on lève notre verre, on trinque. Eh ben, pourquoi ? Eh ben, c'est la question que nous pose Elisa. Moi, j'ai ma petite idée parce qu'il me semble que j'en avais déjà entendu parler. J'espère que vous allez pouvoir y réfléchir et trouver la réponse. En tout cas, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, Elisa nous expliquera tout ça en détail. On apprendra encore quelque chose de nouveau grâce à Elisa qui nous apprend plein de choses avec son évolution et aussi avec ses petites anecdotes sur les énigmes. C'est déjà la fin de l'émission et on va se quitter avec une nouvelle création originale d'Emma. Alors ça s'appelle D'une langue à l'autre, et en fait Emma, vous allez voir que elle va jouer avec les mots en changeant de langue et elle va pouvoir introduire la fin de cette émission avec une belle musique des Beatles. Ça s'appelle Michel ma belle, ça date de 1965. On pense très fort à toutes les Michel. On vous embrasse, on embrasse toutes les Michel et on embrasse vous tous et vous toutes aussi. Et on écoute la nouvelle chronique D'une langue à l'autre par Emma avec le titre des Beatles, Michel ma belle. Moi je vous dis au revoir et au nom de toute l'équipe Libellule, on vous fait plein de gros bisous. On vous remercie encore pour vos écoutes et pour tous vos beaux messages de bonheur. Et Radio Libellule, c'est les ondes positives, c'est le bonheur. J'ai en tout cas passé encore une très belle émission, c'était la 6e et je suis très heureux d'avoir pu fêter mes 20 ans avec vous tous et avec vous toutes. C'était vraiment un instant magique qui restera gravé dans ma mémoire comme toutes ces émissions. D'ailleurs, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à la semaine prochaine. J'ai hâte de vous retrouver. Gardez le sourire, prenez soin de vous. Radio Libellule, les ondes positives.
Michel, ma belle. Ce sont des mots qui vont très bien ensemble. Oui, ma Michel. Michel, ma belle. Ce sont des mots qui vont très bien ensemble. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est tout ce que je veux te dire. Jusqu'à ce que je trouve un moyen, je te dirai les seuls mots que je sais que tu comprendras. Michel, ma belle, ce sont des mots qui vont très bien ensemble. Oui, très bien ensemble. J'ai besoin de te le montrer. Oh, ce que tu représentes pour moi. Jusqu'à ce que je le fasse, j'espère que tu sauras ce que je veux te dire. Je t'aime. Je te désire, je te désire, je te désire. Je pense que tu le sais à présent. Je t'aurai d'une manière ou d'une autre. Jusqu'à que ça ait lieu, je te le dis alors, tu comprendras. Michel, ma belle. Ce sont des mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. Je te dirai les seuls mots que je sais que tu comprendras. Ma Michel.
Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien. what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. To you somehow until I